Le cœur d'or par Gaston Chéreau. Le président donna l'ordre aux gardes d'introduire le témoin Blanche Colin. On vit arriver une grande fille, sans âge, dont les cheveux cendrés, fins et vaporeux, n'accrochaient aucun reflet. Le visage était joli. Elle avait un nez à peine arqué, des sourcils nets et bien placés, des yeux clairs et bleus. Mais au moment où elle entra dans l'ombre du prétoire, ils semblèrent gris. La bouche était remarquablement dessinée, ni trop grande, ni trop petite. Les lèvres avaient la ligne qu'on appelait autrefois vol d'hirondelle. Le menton était un peu allongé, avec une surface carrée qui aurait appelé une fossette. Il n'y avait pas de fossette. Le cou était souple, le buste était un peu étroit pour la taille. Pourtant, autant que les manches le décelaient, les bras devaient être beaux. Tout cela, on ne le jugeait pas au premier coup d'œil. Il fallait même longtemps pour s'apercevoir que Mademoiselle Blanche Colin aurait pu passer pour une assez jolie fille et même pour une belle femme. Dans sa jeunesse, elle se serait sortie plutôt des jupes de sa mère, elle aurait joué, elle ne se serait pas toujours retenue de rire, que des fossettes se seraient peut-être formées, que son visage se serait éclairé, que son corps, qui semblait enfermé dans une gaine rigide, se serait épanoui, et que la nature y aurait mis ses fantaisies. Or, elle faisait penser à la tige de ces arbustes qui montent droit en suivant exactement le tuteur qui la dirige. Elle avait l'air d'une femme comme il faut, c'est-à-dire d'une femme qu'on ne recherche pas, sinon pour un mariage de raison. « Faites approcher le témoin !» ordonna le président de la cour. Mademoiselle Blanche Colin se sentit poussée vers la barre. Il s'y accrocha comme une noyée, ce qui fit dire au président que l'audience commençait à assommer. « Voyons, mademoiselle, n'ayez pas peur. » Il y eut un sourire dans la salle qui fit se tourner violemment l'avocat, mais le « silence », glapi par la voix de polichinelle de l'huissier, arrêta la petite manifestation. « Voulez-vous dire vos noms, prénoms, âge et qualité ?» Sans hésitation, elle répondit « Blanche Colin, 31 ans, sans profession. »« Êtes-vous mariée ?» Elle fut si troublée qu'elle ne pensa même pas répondre non, et qu'elle avoua « Je suis vieille fille. » Cela fut proféré sur un tel ton que la salle ne se retint plus et que le président, soudainement devenu galant, informa que ce genre de manifestation était déplacée et, ajouta-t-il, d'autant plus extraordinaire dans ce cas. Mademoiselle Blanche Colin était écarlate. « Mademoiselle, vous connaissez l'ourtigue. Tournez-vous vers messieurs les jurés et dites-leur ce que vous savez de lui. » Elle se tourna, mais du côté de Gérard l'ourtigue. Pour la première fois depuis 3 mois, elle l'aperçut. Elle fut si suffoquée des changements qui s'étaient opérés en lui qu'elle en demeura bouche bée. Gérard l'ourtigue se leva et s'inclina devant elle. Elle lui répondit par une inclinaison de son buste qui se prolongea insensiblement comme si elle ne pouvait plus l'arrêter. « Mademoiselle, je vous ai dit de vous tourner du côté du jury et de répondre à la question que je vous ai posée. » Elle se tourna de l'autre côté, aperçut les figures des jurés, en reconnut un et resta sans souffle. Derrière elle, l'avocat de Gérard l'ourtigue se dressa, et de la voix nette et coupante qu'on avait entendue par toute la France depuis 30 ans, dans les causes les plus célèbres, et qui en imposait aux présidents et aux avocats généraux. « Je fais respectueusement remarquer à la cour qu'une question posée de façon si vague demeurera probablement sans réponse. On s'est plaint tout à l'heure qu'on faisait perdre leur temps aux magistrats et à messieurs les jurés. Cette façon de procéder n'est sûrement pas pour écourter les débats. Peu importe d'ailleurs. Nous sommes ici pour juger un homme. Nous y consacrerons le temps qu'il faudra. Messieurs les jurés, qui ont pleine conscience de leur redoutable mission, seront les premiers à reconnaître qu'un accusé qui joue sa tête vaut bien qu'on lui consacre les heures que la loi, au surplus, lui accorde pour se faire juger. Si la cour répugne à poser les questions précises, qu'on permette au ministère public ou à moi-même de nous substituer à elle. » Le président, qui tripotait les papiers négligemment, répliqua sans autrement accuser le coup. « C'est à moi de poser des questions. Je demanderai ensuite à monsieur l'avocat général de poser les siennes et à l'avocat de l'accusé de l'imiter, s'il en a encore le désir. « Mademoiselle Colin, voulez-vous dire en quelles circonstances vous avez connu l'ourtigue ?»«
J'ai connu M. Gérard l'ourtigue alors que j'étais enfant. Je ne me rappelle donc pas le début de nos relations. Yvonne de La Fontenelle était ma camarade et comme c'était la cousine de Gérard, nous allions jouer ensemble avec lui au château. Expliquez, mademoiselle.
Votre compagne, mademoiselle Yvonne de La Fontenelle, plus âgée que vous de 3 ans, est devenue madame de Mazo.
Alors nous jouions ensemble, je le répète, et nous n'avons cessé de nous connaître depuis.
Un silence et le président exaspéré répéta.
Vous n'avez cessé de vous connaître.
Et puis, l'avocat général vint au secours de la malheureuse.
Quand vous avez grandi, quand vous êtes devenues des jeunes filles,
mademoiselle de La Fontenelle et vous, vous êtes-vous aperçu que Lourtigue, qui, n'est-ce pas, était de 5 ans plus jeune que sa cousine de La Fontenelle, avait un goût plus marqué pour elle que pour vous? Les joues de mademoiselle Colin se décolorèrent un peu, mais elle répondit avec assurance.
Non, monsieur.
Lourtigue faisait-il la cour à mademoiselle de La Fontenelle?
Non, monsieur. Gérard était un homme bien élevé, même sévèrement élevé par un père qui ne badinait pas, et s'il était familier avec nous, il n'a jamais cessé d'être un galant homme.
C'est-à-dire? Questionna le président.
C'est-à-dire qu'il se tenait à sa place et qu'il ne nous a jamais manqué de respect.
Cela fut exprimé d'une voix tranchante qui fit faire à l'avocat de Gérard Lourtigue un petit geste et qui en signifiait long.
Bref, reprit le président, votre amie, mademoiselle de La Fontenelle, s'est mariée avec M. de Mazo.
On sait que ça n'a pas été précisément un mariage d'amour.
On ne le sait pas du tout, lança l'avocat, et j'ai dans mon dossier des lettres de mademoiselle Yvonne de La Fontenelle, devenue madame de Mazo, à son mari, qui prouve le contraire.
Messieurs les jurés les entendront.
Ils les entendront,
concéda le président.
En attendant, mademoiselle, avez-vous l'impression que le ménage de Mazo était un bon ménage?
C'était un ménage comme beaucoup un bon ménage.
Monsieur de Mazo était un homme excellent,
et Yvonne ne s'est jamais plainte de lui, à moi.
Il avait la réputation d'être bon jusqu'à en être faible. Il était bon, mais il n'était pas faible, et la preuve, c'est qu'il savait très bien mener ses affaires.
N'a-t-il jamais prononcé devant vous une parole qui aurait pu vous donner à croire qu'il ne s'entendait pas toujours avec sa femme?
Avant qu'elle ne répondît, l'avocat de Gérard Lourtigue s'était dressé de nouveau et disait « Messieurs les jurés, il est nécessaire que je vous fasse remarquer qu'actuellement il ne s'agit pas de madame de Mazo, mais bien de mon client, Gérard Lourtigue. Par conséquent, il importe peu qu'on s'étende sur les sentiments conjugaux de M. de Mazo. Ceci pour tenter d'engager enfin les débats dans la véritable voie qu'ils doivent suivre. Je demande la permission à la cour de résumer.
M. de Mazo adorait sa femme. Tout le monde en convient. L'accusation semble ne pas être convaincue que Mme de Mazo rendait à son mari l'amour qu'elle recevait de lui.
Vous l'avez entendu tout à l'heure. Elle a affirmé le contraire.
Et voyez combien je laisse à monsieur l'avocat général la partie belle.
Je n'insiste pas. J'entends la rumeur publique. J'entends les témoignages qu'on a retenus ici et dont l'instruction a fait une ample moisson.
J'entends mademoiselle Blanche Colin. J'entends mon client. Tout le monde est de cet avis. Monsieur et madame de Mazo formaient un ménage très uni.
Mais il faut arriver à la question qui occupe les débats.
Mon client, Gérard Lourtigue, était-il, oui ou non,
l'amant de madame de Mazo?
Inutile de ruser plus longtemps. C'est bien cela, n'est-ce pas, monsieur le président, que vous vouliez demander?
Cette fois, le président devint écarlate et signifia qu'il était le maître de conduire les débats à sa façon et qu'il n'entendait pas être dirigé, même par une sommité incontestée du barreau.
La voix pure de mademoiselle Blanche Colin s'éleva pour dire que jamais elle n'avait su que son amie, madame de Mazo, avait été la maîtresse de Gérard Lourtigue.
On lui posa des questions sur l'emploi des journées et des soirées qu'ils passaient ensemble. On ne put la faire sortir de là.
Soit. Mais n'avez-vous jamais su, reprit le président, que Lourtigue était dans une situation gênée?
Jamais.
Cependant, il se livrait à des dépenses qui paraissaient avoir largement dépassé ses moyens.
Madame Colin baissa la tête et prit longuement sa respiration.
Et faisant face à Gérard Lourtigue, elle articula fermement, les regards rivés à lui.
Je dois toute la vérité. En admettant que Gérard Lourtigue aurait eu besoin d'argent, il savait bien où il pouvait en trouver puisque c'est lui qu'elle avait prêté à mon père. Cet argent lui sera rendu quand il le voudra.
Ma mère et moi sommes d'accord. Nous vendrons une ferme, nous vendrons ce qu'il faudra, mais nous le rembourserons.
Mon père, en mourant, nous a laissé ce devoir.
Derrière la balustrade de bois, Gérard Lourtigue, le visage blême,
les lèvres frémissantes, écoutait ce mensonge. Au-dessous de lui, son avocat triomphait.
« Pouvez-vous, mademoiselle, demanda brusquement le président, nous dire comment il se fait que l'Ourtig, qui d'après vous n'était pas l'amant de madame de Mazeaux, qui, toujours d'après vous, avait si peu besoin d'argent qu'il était capable d'en prêter à monsieur votre père, ait assassiné son cousin, monsieur de Mazeaux. »
Blanche Colin hocha lentement la tête, regarda la cour, regarda les jurés. Elle détacha ses mains de la barre des témoins, les y laissa retomber.
Elle ne savait pas.
On la harcela de questions, on lui fit raconter ce qu'elle savait sur la journée qui avait précédé l'assassinat. On l'adjura de rappeler ses plus lointains souvenirs, d'avouer qu'il pouvait y en avoir un, parmi eux, qui servirait à éclairer les débats. Gérard Lourtig avait-il jamais proféré une menace contre son cousin de Mazeaux ?
Elle répéta exactement ce qui avait été consigné dans le dossier de l'instruction. Elle ne savait rien de pareil.
Et elle se retira dignement, après s'être inclinée devant la cour, les paupières baissées, les mains jointes, sans rien voir de la salle qu'elle quittait, suivie par les regards de Gérard Lourtig, dont les yeux étaient embués de larmes. Une voiture l'attendait à la porte. Elle rentra chez elle, gagna la pièce qu'elle occupait d'ordinaire, enleva son chapeau, ses gants, son manteau, et s'étant assurée que sa mère était absente, elle ferma la porte à clef. Aussitôt, abandonnant le courage qui l'avait maintenue si ferme, elle se jeta sur le canapé et laissa éclater les sanglots qui l'étouffaient. Le soir, quelqu'un vint la renseigner sur la suite des débats. Le lendemain, on lui apporta les journaux qui relataient l'audience, et il sentit qu'un étrange bonheur la gagnait. À sa mère, qui lui avait demandé une explication, elle répéta ce qu'elle n'avait cessé d'affirmer. À son lit de mort, son père lui avait fait promettre de rembourser Gérard Lourtig. Elle le ferait, quoi qu'il arrivât. Et elle ne lui devait rien, pas un sou. Cela, oui, la gonflait de fierté. Elle était allée à un homme qu'on attaquait, qui était seul à se défendre, dont elle connaissait tout de la vie secrète, dont elle avait gardé pendant des années la correspondance qu'il échangeait avec sa cousine, Yvonne de Mazeaux. Elle avait connu jour par jour l'histoire de leur amour, leur brouille, leur accommodement, leurs angoisses quand ils se croyaient découverts, le projet qu'ils caressaient de se faire une existence commune, tout, même l'abominable féerie de leur nuit d'amour, parce qu'elle avait lu leurs lettres. Et elle avait su comment Yvonne s'y prenait pour exaspérer la jalousie de son amant. Elle savait quelles avaient été les deux dernières journées qui avaient précédé le crime. Elle savait aussi qu'Yvonne avait menti quand elle avait juré que Gérard Lourtig n'était pas venu la voir chez elle après avoir accompli son forfait. Elle savait tout, tout. Elle savait aussi maintenant qu'elle aimait le malheureux. Mais il avait fallu ses preuves pour lui faire découvrir qu'au fond d'elle, à son insu, elle avait nourri une passion dont elle se croyait garantie par la vérité même qu'elle avait eue sous les yeux pendant tant d'années. Cette longue histoire de la passion de Gérard Lourtig, elle l'avait vécue sans se douter qu'elle avait fini dans sa pensée par se substituer à Yvonne. La joie, les peines, l'allégresse ou l'abattement de Gérard Lourtig étaient son œuvre. Aujourd'hui qu'elle voyait Yvonne de Mazeaux se défendre avec tant d'âpreté d'avoir été la maîtresse de son cousin, aujourd'hui que, veuve d'un mari qu'elle ne se privait pas de bafouer jadis, elle ne partageait pas le châtiment de celui qui l'avait faite libre. Elle, Blanche, éprouvait impérieusement le besoin de se sacrifier pour l'homme qu'on jugerait demain, pour qui elle éprouvait une immense tendresse, comme un amour vengeur. Elle avait menti. Elle mentirait encore. Cette fable de l'argent prêté par Gérard Lourtig au riche père Colin, qui n'avait jamais emprunté un sou, même à l'époque où, vigneron ruiné par le phylloxéra, il avait fallu tenir tête au mauvais destin, elle l'avait inventée à la dernière minute, certaine que si Gérard protestait, elle le sauverait encore, parce qu'on ne le croirait pas, lui qui s'accusait de tout avec une âpreté qui finissait par servir sa cause. À l'heure du déjeuner, madame de Mazeaux se fit annoncer. Blanche Colin lui fit répondre par sa mère qu'elle ne la recevrait pas. Elle savait ce qu'on voulait lui dire, et elle se moquait bien d'être remerciée par celle qui, entrant dans le rôle de l'honnête femme, abominablement accusée, passe la tête haute devant l'amant dont la vie est en question. Yvonne ne voulait pas seulement lui dire merci d'avoir sauvé sa réputation de femme, elle voulait lui apprendre qu'elle n'était pas sa dupe et qu'elle découvrait son jeu. Ce n'était pas à elle qu'il fallait compter que Gérard avait prêté de l'argent au père Colin. D'abord, elle l'aurait su, parce qu'il ne lui cachait rien.
Et puis où aurait-il pris cet argent? Les réparations du château, la vie qu'ils menaient tous les deux, leurs déplacements, son auto, ses jardins. Il ne lui avait jamais avoué qu'il était gêné. Néanmoins, de temps à autre, quand de Mazo parlait de lui à table, elle entendait son mari faire le compte de la fortune de l'Ourtig et se demander si leur cousin pourrait tenir longtemps au train dont il allait. Mieux que Gérard, il connaissait sa fortune. Par conséquent, Gérard n'avait jamais prêté d'argent au père Colin. Pourquoi donc Blanche Colin s'était-elle décidée à l'attester pendant les débats? Yvonne voulait lui dire « Comme c'est simple, vous lui sauvez peut-être la tête et vous vous imaginez qu'il tombera dans vos bras après l'acquittement s'il est acquitté. C'est une façon de déclarer à quelqu'un qu'on l'aime, à quelqu'un qui, pendant tant d'années d'intimité, n'a jamais fait attention à vous. » Blanche, suffisamment rabaissée, aurait entendu aussi qu'Yvonne ne s'accommoderait pas de la compagnie d'un assassin, qu'elle laisserait libre la place, qu'elle se retirait et qu'on n'entendrait plus jamais parler d'elle, jamais. En effet, pendant les dernières semaines qui avaient précédé le procès, elle avait présidé à l'emballage de tout son mobilier, rangeant elle-même les objets fragiles, ayant l'œil à tout, s'occupant de tout. Personne dans le village ne s'était encore douté qu'elle se préparait à s'éloigner parce que rien n'avait filtré de ses préparatifs. Le silence avait été strictement gardé. Ses domestiques, qu'elle emmenait, n'avaient pas parlé. Elle-même était allée à Paris pour traiter avec une compagnie de transport. Les voitures devaient se présenter dès le lendemain du verdict. On accrocha un écriteau à la grille du jardin, le notaire serait prévenu de la vente et, 24 heures plus tard, la villa des deux Mazo serait vide comme un tambour. Elle attendait le verdict, mais quand on vint lui annoncer que son cousin, Gérard Lourtig, était condamné à 20 ans de travaux forcés, il se passa en elle quelque chose d'étrange qui la courba. Celui qui avait été son amant, sur qui elle régnait en maîtresse absolue, qui n'avait jamais eu une révolte ou qui ne lui en avait jamais rien montré, devenait un forçat. Dans quelques semaines, il partirait pour l'île de Ré. Ensuite, ce serait le voyage qui le conduirait de l'autre côté de la terre. Il serait mêlé aux voleurs, aux grandes escarpes, à toute cette île qu'elle se représentait avec des figures hargneuses, des tatouages sur les bras, des cicatrices sur la poitrine et des mains d'étrangleurs. Lui, le Gérard soigné, parfumé, à qui elle se plaisait à dire « Ta peau me plaît, elle est douce, elle me rend folle. » Si on avait été bon pour elle, peut-être qu'elle serait restée et qu'elle aurait fait l'aveu que le condamné avait attendu jusqu'à la dernière minute. Malheureusement, sur son passage, on se détournait d'elle. Personne ne la saluait et ses amis lui avaient fermé leurs portes. Jusqu'à Blanche Colin. Cette Blanche. Alors l'orgueil l'avait emportée. Elle avait refusé d'avouer qu'elle avait été la maîtresse de Gérard. Elle l'avait rejetée de sa vie définitivement, sans pitié, comme si aucun souvenir de lui ne subsistait en elle. Aucun ne lui restait. Elle avait effacé d'un coup tous ceux qui l'auraient gêné. Son passé avait disparu. Une existence toute neuve, lui semblait-il, s'ouvrait devant elle. En annonçant au notaire qu'elle quittait le pays, elle lui remit son adresse au-dessus de laquelle, d'une écriture ferme, elle avait fixé le prix qu'elle exigeait de sa propriété. 150 000 francs. Madame Y. de Mazo, Lessiste, Le Bardo, Tunis. Lorsque Blanche Colin en fut informée, elle écrivit à Gérard Lourtig, à la prison, mais elle ne lui parla pas de la fuite d'Yvonne. Elle lui disait de ne pas s'abandonner au désespoir, que sa rédemption était commencée, qu'il redeviendrait un homme, et qu'elle le suppliait de s'attacher à redevenir l'honnête homme qu'il était avant le coup de folie qu'il avait rejeté du monde. Elle lui disait aussi qu'il ne devait avoir aucun tourment au sujet de la dette qu'il avait contractée envers elle, héritière de son père. Elle lui demandait seulement l'autorisation de s'occuper de la propriété qu'il abandonnait. Elle surveillerait ses domestiques, elle ferait entretenir le château. « Il est naturel que je veille à votre fortune, puisque vous êtes mon créancier. » « Maman vous donne, comme moi, sa garantie que si vous avez besoin d'argent, vous pourrez faire appel à nous. » Elle l'informa aussi qu'elle payait les frais de la partie civile, de son avocat, de tout. Dans le pays, les esprits étaient montés contre Madame de Mazo au point d'oublier que Lourtig avait tué son mari. Cette femme, qu'on voyait passer tous les jours, autrefois, en route pour le château de Gérard Lourtig,
qui ne se cachait pas d'y commander, qui avait absorbé l'habit de celui qu'on lui donnait comme amant, qui, au moment du drame, n'avait rien fait pour le sauver, était accusée d'être l'instigatrice du crime qui l'avait débarrassée d'un mari paterne, lourd, pour qui elle n'avait montré qu'une affection polie de bourgeoise. Il paraissait à tous que la punition de Lourtigue était trop lourde. On parla de lui comme d'une victime, on argua de sa faiblesse. On montra que, son forfait accompli, il n'avait cessé de se montrer un parfait galant homme. Il aurait été facile à son avocat de plaider le crime passionnel, s'il le lui avait permis. Mais il avait affirmé, juré, qu'Yvonne n'était pas, qu'elle n'avait jamais été sa maîtresse. Et quand elle avait témoigné devant la cour, aucun mot n'était tombé de ses lèvres, et pas un geste ne l'avait trahi. L'opinion parla si fort que l'avocat de Gérard Lourtigue fit appel du jugement. Les motifs ne manquaient pas pour le rendre caduc. On retint surtout que deux témoins, dont Mademoiselle Blanche Collin, avaient comparu sans qu'on leur imposât de prêter serment. Le calvaire recommença 3 mois plus tard, à Orléans cette fois. Madame Collin suivit le procès. On la vit partout à la prison, au tribunal. De toute son énergie, elle soutenait l'accusé. Un avocat maladroit ayant dit qu'un tel dévouement n'était pas désintéressé, elle lui fit face et le somma de s'expliquer. « Eh bien, lança-t-il, puisque j'y suis engagé, je fais remarquer à messieurs les jurés que Mademoiselle Collin, qui défend avec tant d'âpreté l'assassin de M. de Mazeaux, est sa débitrice pour une très grosse somme d'argent, et qu'après tout, elle ne serait pas la première à faire éteindre une dette par un mariage. » Toute droite, dans ses voiles de deuil, et en le dévisageant, elle lui répliqua « Avec ma figure de vieille fille !» Cela lui conquit la salle, le jury et le tribunal. Les cernes de ses yeux s'étaient approfondies, son masque était décoloré par l'émotion, ses lèvres tremblaient. Elle était belle. Gérard Lourtigue ne s'en apercevait pas. Il ne voyait que son cœur qui était si noble, si généreux. Dans son isolement de réprouvé, il lui semblait qu'une présence ne cessait de veiller et qu'elle ne l'abandonnerait pas. Il sortit de la nouvelle épreuve avec une réduction de peine de 10 ans. Pendant l'une des 4 visites que lui fit Blanche Collin à la prison, avant son départ pour la maison centrale, il lui demanda ce qu'était devenu Yvonne, et lui répondit très simplement, sans haine, sans jalousie, qu'elle s'était installée en Tunisie et qu'il ne savait rien de plus sur elle. Ce fut tout, mais la façon dont il lui dit merci, elle comprit que l'apaisement se faisait en lui. Il fit comme elle avait dit. Elle s'occupa de tout dans la propriété de Gérard Lourtigue. Elle tenait ses comptes qu'elle lui soumettait, l'informait de ce qui pouvait l'intéresser. Pas un mot d'elle-même et de ce qu'elle éprouvait au fond d'elle pour le misérable qui était au loin. Maintenant, elle n'avait plus d'effort à faire pour se représenter qu'elle l'aimait. Il n'y avait plus personne entre eux. Il n'y avait que l'immensité des mers et les barrières de la justice. Parfois, elle se disait qu'elle reviendrait. Elle s'imaginait son retour et son cœur se glaçait délicieusement. Alors elle se regardait et elle prenait espoir. Autour d'elle, on ne cachait pas qu'elle devenait jolie. Son allure était plus souple. L'ovale de son visage s'était adouci. Ses yeux s'étaient avivés. Et il y avait dans sa voix quelque chose de pathétique qui faisait qu'on s'attachait à elle. Cela dura jusqu'à la mort de sa mère, qui survint en hiver, presque inopinément. Cette fois, elle s'aperçut qu'elle était bien seule dans la vie. Autour d'elle, les domestiques et les relations à qui elle ne pouvait pas parler de ce qui l'occupait toujours. Au loin, aux antipodes, celui à qui elle pensait, à qui elle écrivait régulièrement, qui lui répondait, à qui elle n'avait jamais avoué son amour, et qui n'avait encore rien fait pour que l'aveu éclatât. Insensiblement, elle prit l'habitude de ne plus se regarder. Puis elle se soigna moins, et puis ses pensées devinrent moins ardentes, et laissèrent s'éteindre le feu de ses regards. Ses joues s'amollirent, son corps se courba, elle prit des manies. Quand elle reçut de Gérard Lourtigue la lettre qui lui annonçait son retour, cela lui donna un tel coup dans la poitrine qu'elle crut s'en évanouir. Il revenait. Elle allait le revoir, elle lui parlerait. C'était le seul homme qu'elle avait fréquenté. Elle avait fini par croire qu'il était le seul sur la terre. Au milieu de tout le monde, elle avait vécu comme dans un couvent, et dans ce couvent il y avait un homme qu'elle aimait, le seul homme qui existât, et il revenait. Elle se regarda. Elle avait devant elle une femme aux joues molles, aux paupières abattues et fripées, aux lèvres sans fraîcheur. Et le corps. Son buste s'était rétréci, son dos s'était voûté. Épouvantée, elle se demanda ce qu'elle allait faire. Lorsque Gérard Lourtigue, amaigri, la peau tannée et ravagée, les cheveux blanchis, rentra chez lui, le domestique qui lui restait de ce qu'il avait eu lui remit une lettre de Mademoiselle Collin. Elle lui écrivait « Gérard, je vous ai tellement attendu que je ne me suis pas aperçu que la vie passait. Elle a passé. Ici, je puis vous dire sans honte que je vous ai bien aimé, que je vous aime toujours, mais que je me trouve avec vous comme une vieille femme dans son vieux ménage, qui adore toujours son compagnon et qui pourtant ne peut plus le regarder avec les yeux d'autrefois. Mais il est devenu son habitude. Je pourrais rester, vous revoir. Ce serait atroce. Il nous manquerait l'habitude, qui aurait accoutumé vos regards à ne pas noter ma déchéance. Et imaginez-vous ce que serait pour moi de me sentir sous votre regard qui me jugerait. Alors, Gérard, je vous aime bien toujours, et c'est ainsi que s'achève l'amour que j'ai eu toute ma vie pour vous, autrefois, sans jamais avoir jamais su que je vous aimais. Et je m'en vais. Vous trouverez chez votre notaire le montant de ma dette, augmenté de tout ce que j'ai pu y mettre. Dans la maison où je me retire, je n'aurai besoin de rien. J'y achèverai mon existence avec pour compagnie le seul rêve que j'aurais fait, qui demeure bien beau, qui a été bien déchirant, bien atroce, mais que vous avez occupé tout entier et que vous occupez toujours. » Ainsi s'achève « Le cœur d'or » par Gaston Chéreau.